Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Bonsoir. Les carnets du soir vous proposent ce séjour au Mexique, dont le cœur fut le sanctuaire Notre-Dame de Guadeloupe. Je vous invite à découvrir avec moi ce lieu et les différentes facettes de ce parcours. Nous arrivons au centre de la ville, près de la cathédrale. Alors, on se reconnaît. C'est un endroit qu'on a visité il y a 2 jours avec Guillermo. Donc, on descend. C'est là que le bus nous ramène. C'est le point de chute. Alors, on descend à cet endroit. Et là, on prend le temps de trouver un endroit pour le repas. Il est déjà 14 heures. Ça passe vite. On est parti à 11h30. On a fait un petit bout de chemin, un long bout de chemin dans Mexico. On a fait le tour avec l'autocar. Et il est 14 heures. C'est le temps de manger. Et on prend le temps. Ensuite, il faudra se rendre pour que Pedro nous reprenne à un endroit particulier qui a été désigné. Au fond, c'est l'endroit où nous avons pris le car. On doit retrouver Pedro qui va nous ramener à la maison des prêtres en fin de journée. Vous savez, voir une ville est une chose, mais je préfère voir les gens. Ça, c'est intéressant. Alors, je cause avec telle personne qui fait un travail modeste. Il y a quelqu'un qui est là, je le remarque depuis un certain temps. Bon, avec les quelques mots en anglais que je possède, j'entre en dialogue avec ce jeune homme qui travaille. Il aime son travail. Je lui demande, est-ce que tu aimes ton travail? Il me dit oui. Il travaille 6 jours, puis un congé. Il me dit que pour lui, ce qu'il y a de plus beau à Mexico, c'est la Guadalupe, la Vierge de Guadalupe. Il travaille pour des agences de tourisme. Alors, il est là, tous les jours au même endroit, 6 jours sur 7, puis un congé. Mais pour lui, ce qu'il y a de plus beau, c'est la Vierge de Guadalupe à Mexico. Je lui dis que c'est la même chose pour moi. Je lui dis que Dieu les aime, les Mexicains, car il leur a montré l'amour de sa mère. Et là, nous allons prendre un autre véhicule. Nous allons devoir nous rendre là où Pedro nous attend. C'est encore loin, comme je vous dis. Là, on prend un taxi qui nous conduit à l'autre lieu. Et au cours de ce petit périple, on apprend qu'il est papa d'une petite fille, Daniela, petite fille de 5 mois. Et je lui demande s'il est allé la présenter au sanctuaire et à la Vierge de Guadalupe après sa naissance. Alors, ça ne tarde pas, il dit oui. C'est ce qu'il y a de plus grand pour eux que cet amour envers Marie, et Marie pour eux, étant la mère de Jésus. Là, vous savez, on peut voir des bâtiments dans une ville, des maisons, des gens célèbres qui les ont habités. Mais là, nous parlons avec les gens du peuple, les gens simples, les gens qui sont courageux, qui ont des travaux très simples, de service, qui sont au quotidien avec le peuple, avec les autres, qui gagnent leur vie. Des papas, des mamans. C'est beau. Et ces gens ont la foi. Ils croient. Ils croient en Dieu. Ils aiment Marie. La transmission de la foi, c'est pas venu tout seul, on leur en a parlé. Ils ont probablement été, 30 ans auparavant, les petits bébés qu'on a amenés au sanctuaire de Notre-Dame de Guadeloupe pour la présenter. Alors, ça fait partie de leur histoire, c'est dans leur sang. Plus, c'est dans leur esprit, dans leur âme. Ils aiment leur vie. Elle n'est pas toujours facile, certes. Vivre dans une ville de 22 millions d'habitants, c'est du monde. C'est du monde aussi. C'est une ville où le jour, bon, ça peut aller, mais le soir, prudence. Prudence. Alors c'est cela leur vie. Les carnets du soir se poursuivent avec une lecture en continu du livre « L'impossible », parole énigmatique pour cette nuit noire, dont je suis l'auteur. La nature, depuis quelques étés, avait eu des sautes d'humeur. La montagne, la haute, l'impossible semblait ces derniers jours plongés dans un gouffre sans fin. On n'en distinguait ni hauteur ni largeur, et tout cet environnement paraissait profondément tourmenté. Des alertes fusaient de part et d'autre et couvraient tous les petits villages parsemés au pied de ce décor majestueux et montagneux. On était sur le qui-vive, et l'été avait été sans répit. Ouragan, incendie de forêt, pluie diluvienne. On eût dit une saison chaotique dont on ne verrait plus l'issue. Vraiment, tout d'un coup, la nature avait fait volte-face. La cloche de la petite église Sant'Antonio avait sonné souvent. Tout le village était à l'écoute du danger. La place publique était devenue déserte. Quelques gamins seulement se risquaient à jouer près de la fontaine lors des rares percées de soleil. Le vieil arbre, si fécond en été, s'était lui aussi retranché dans une sorte de saison inconnue, le feuillage terne. Une large blessure lui traversait maintenant le corps. La foudre s'était follement jetée sur lui. De longues journées sans soleil, voilà ce qui était devenu subitement la vie de ce petit village, au pied de l'impossible. Rarement aussi, la montagne pointue avait fait luire son étoile. Les grands brouillards s'étaient emparés de tout cet espace des hauteurs, et il était dur d'être en bas. Pourtant, la tête des enfants avait continué de recevoir des grands héréditaires tapes qui les ramenaient vers la terre. L'impossible n'avait pas réussi à tisser cet escalier de confiance. On aurait voulu tout avoir tout de suite dans cet univers. Soudain, de forts vents se levèrent et se mirent à pousser le village vers on ne sait où. Dans le cœur des gens, de tous côtés, soufflait l'angoisse devant l'inconnu. Et chacun se cramponnait à son toit, espérant tenir par les doigts encore bien des siècles. Encore une fois, le petit village allait entrer dans cette fin de journée, la peur au ventre. L'œil de Petit Jean ne quittait plus la montagne pointue. Son être aussi était en alerte. Étrangement, il ne percevait plus l'habituelle étoile qui se montrait toujours la première, comme le lui avait appris Pépé Antoine. La veille non plus, elle n'avait pas brillé. Petit Jean n'habitait plus chez sa mère et son père. Depuis le dénouement de la patte du petit oiseau, il était redescendu avec la paix comme avenir. Plusieurs jours, il était demeuré près de la dame de la montagne, après la grande tourmente. Cette paix, qu'il ne connaissait pas, était arrivée un beau matin, sans qu'il s'y attende. Silencieusement, elle s'était transformée en force. Désormais, c'est du dedans que jaillirait l'avenir, comme un langage que lui avait appris à décoder toutes ses marches de l'escalier. La mémoire de chacune des sept marches brûlait en lui, comme un feu. Mèche et cire s'y consumaient, et d'elle, il brillait. Petit Jean était revenu libre. Qu'allait-il devenir? Il n'en savait rien. Mais il était libre de lui-même et de ce que les autres attendraient de lui. Regardant devant lui la dame de la montagne, il avait dit ces mots. « Il n'y a plus d'oiseaux. » À cela, elle avait répondu. « Tu en as les ailes maintenant. Ni le bas, ni le haut ne doivent t'effrayer. Va, Jean. » Puis, étonné de s'entendre nommer ainsi, il la serra contre lui, conscient de cette taille nouvelle qui prenait son envol. Et sans ajouter une seule parole, Petit Jean la quitta en répétant intérieurement son nom, Jean. De retour au village depuis les dernières années, l'œil de Petit Jean allait quand même s'inquiéter. La montagne pointue ne rassurait plus personne, elle ne s'allumait plus. Interminable fut cette fin du jour. L'obscurité avait pris le dessus et le petit village restait accroché à son monde de sécurité. Tout à coup, des cris et hurlements ameutèrent les petites ruelles, comme un courant d'air. Le nez aux fenêtres, les gens cherchaient à découvrir d'où provenaient ces bruits qui donnaient la chair de poule. Tout s'entremêlait. Le sifflement du vent, le tonnerre au loin, l'aboiement des chiens apeurés et ces hurlements inattendus. Quelques portes s'ouvrirent comme sur la pointe des pieds et l'on vit courir une silhouette. On eût dit un fantôme. Soudain, de porte en porte, on pouvait entendre « C'est la folle ! C'est la folle ! C'est Clarisse la folle !» Les portes se refermant, le nom de Clarisse se perdit en étouffement. C'était donc Clarisse la folle, habituellement si tranquille, connue de tout le monde, qui faisait des siennes. Toute seule, elle vivait près de la petite église Sant'Antonio et recevait chaque jour du sacristain sa nourriture. Depuis des années, elle vivait dans une petite cabane de tôle. On racontait que des gitans, passant par le village pour se rendre on ne sait où, s'étaient installés une nuit pour dormir sur la place publique et l'avaient laissée là, attachée au grand arbre. Le lendemain matin, des gens l'avaient trouvée, et voyant l'aspect troublé de cette fillette abandonnée, ils la menèrent au curé. Elle devait avoir alors une douzaine d'années, et de très longs cheveux épais descendaient sur tout son corps. On eût dit qu'elle en était habillée. Ces gens ne voulaient pas plus d'elle que ces gitans qui la leur avaient laissée comme un poids sur le dos. C'était les Carnets du soir avec Denis Veilleux qui vous parle. Réalisation technique, Yannick Caron. Thank you.